Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le 31e sommet de la Ligue arabe ce mardi et ce mercredi, une réunion internationale à Alger. Nous y reviendrons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. La capitale tunisienne, paralysée par une grève des transports, les agents de la Société des transports de Tunis protestent contre des retards de paiement des salaires. Le Liban, confronté à une épidémie de choléra, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Le gouvernement français veut créer un titre de séjour métiers en tension pour les travailleurs sans papier, l'un des éléments du futur projet de loi immigration attendu au début de l'année prochaine. Les victimes de propos racistes sur les réseaux sociaux doivent déposer plainte. Le message du député Renaissance de Moselle, Belkir Belhadad, lui-même a porté plainte après avoir été victime de propos racistes sur Facebook. Nous écouterons Belkir Belhadad. La CGT annonce la fin de la grève à la raffinerie Total Energy de Gonfreville, située en Normandie. Elle alimente notamment l'Île-de-France. La fin ce mercredi du sommet de la Ligue arabe, une réunion internationale à Alger. La Ligue arabe, qui regroupe 22 pays, s'était réunie pour la dernière fois à un tel niveau en mars 2019. C'était à Tunis, avant la pandémie de Covid-19. Sur ce sommet, entretien avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
Certains ont pris la parole, comme le président tunisien, pour évoquer la nécessité d'aller vers un travail arabe commun, de revoir ce travail, de travailler... de parler d'une seule voix, puisque le monde arabe, selon Abdelahmed Abolrit, qui est secrétaire général de la Ligue arabe, est au cœur de plusieurs crises, et il a détaillé quelques crises. Il y a là les aspects politiques, comme la situation au Liban, au Yémen, en Libye, en Syrie, et en Somalie. Et la question aussi de la sécurité alimentaire, puisque le monde arabe importe beaucoup de céréales d'Ukraine et de Russie, et la guerre en Ukraine a des retombées sur le monde arabe. Cela a été souligné par les intervenants. Le président Abdelmajid Tebboune, pour sa part, a évoqué la question palestinienne. Pour lui, cette cause doit être au centre des préoccupations arabes. Et il a proposé qu'une commission, un groupe de contact arabe soit créé pour suivre la demande de la Palestine, du président Mahmoud Abbas, qui est présent à Alger, pour que la Palestine soit un pays membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Le président Tebboune aussi a proposé de créer un bloc économique arabe pour affronter les menaces extérieures et pour affronter aussi les défis, tant sur le plan de l'agriculture que de l'énergie et d'autres secteurs.
Vous évoquez la question palestinienne, on s'en souvient, c'est à Alger, le 13 octobre dernier, qu'a été scellée la réconciliation entre les différents mouvements palestiniens. C'est un fait important.
Oui, cela a été aussi évoqué par certains chefs d'État, et la déclaration d'Alger qui va émaner du sommet d'Alger devra porter cette question, c'est-à-dire qu'il s'agit maintenant de suivre sur le terrain l'application de l'accord signé effectivement par les différentes factions palestiniennes le 13 octobre 2022. À l'époque, on avait parlé aussi de la déclaration d'Alger. Il s'agit de la suivre dans la mesure où il faut aller vers une organisation, la réorganisation, la restructuration de l'organisation de libération de la Palestine, l'OLP, l'organisation des élections générales et parlementaires, et doter l'État palestinien ou les structures de l'autorité palestinienne de structures pouvant continuer donc à faire fonctionner les territoires occupés, faire fonctionner aussi le pays selon ce qui a été dit. Et donc probablement qu'on ira vers la création d'une commission mixte arabe constituée de plusieurs ministres des Affaires étrangères arabes pour suivre et accompagner les factions palestiniennes et éviter que éviter ce qui s'est passé par le passé, c'est-à-dire ne pas appliquer les accords de réconciliation interpalestinien.
Vous évoquez la crise alimentaire et vous soulignez que les pays arabes sont particulièrement impactés par cette guerre menée par la Russie en Ukraine.
Oui, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, le Liban et même certains pays du Golfe sont de gros importateurs de blé ukrainien et russe également, mais pas seulement ça, parce que ces pays importent aussi les engrais de Russie, qui sont nécessaires aussi pour certaines récoltes dans la région arabe. Et Ahmed Abolrit, secrétaire général de la Ligue arabe, a évoqué les menaces sur cette sécurité, pas uniquement de la guerre en Ukraine, mais également de la sécheresse, parce qu'il y a des parties du monde arabe qui sont touchées par la sécheresse sévèrement, comme en Somalie, où il y a une menace de famine. Les organisations internationales parlent actuellement que près de 50% des Somaliens sont menacés de famine. La Somalie est membre de la Ligue arabe. C'est la même chose, parce que c'est un pays voisin aussi à la Somalie, au Yémen. Le Yémen est déjà frappé par une guerre, il est frappé par plusieurs crises sanitaires et également la sécheresse. Et donc, ces menaces et cette situation fait que les pays arabes vont aller vers une stratégie commune, stratégie réaliste, selon Ahmed Aboulrit, pour justement relancer la production agricole et aller vers des coopérations et des projets communs dans plusieurs secteurs, notamment la production du blé. Il y a des pays qui ont beaucoup de un grand potentiel pour produire le blé localement, comme l'Algérie, comme le Maroc, comme le Soudan et comme l'Égypte.
Vous avez souligné qu'il s'agissait de parler d'une voie commune. Qu'en est-il justement de la coopération sécuritaire aujourd'hui entre ces différents pays?
Oui, c'est une question qui est également abordée, parce qu'il y a les aspects politiques, les aspects économiques et les aspects sécuritaires. Disons qu'il y a déjà, entre certains pays, la coopération est au bout fixe. Disons que c'est une coopération qui est opérationnelle depuis plusieurs années, notamment par exemple entre l'Algérie et l'Égypte en matière de lutte contre le terrorisme. Il y a une coopération aussi entre l'Algérie et des pays du Golfe comme les Émirats Arabes Unis ou le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, ce qui a été abordé, ce qui a été dit, et même ce qui a été souligné par Moussa Feki, qui est le président de la Commission africaine, qui a pris la parole au sommet arabe, c'est d'aller vers des coordinations plus efficaces entre les pays arabes, notamment ceux qui se trouvent en Afrique, parce qu'il y a une partie du monde arabe est en Afrique, pour aller vers une meilleure coordination dans la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le crime transfrontalier. Cela peut toucher et concerner des pays comme l'Égypte, comme le Soudan, comme la Libye, comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme le Maroc. Et notamment, c'est des pays qui ont des frontières avec les pays sahéliens où il y a des groupes terroristes, en plus évidemment de la coopération nécessaire avec d'autres pays comme les pays du Moyen-Orient pour affronter des groupes comme Daesh ou d'autres groupes terroristes qui menacent souvent pas uniquement la stabilité des États, mais aussi les économies de ces pays, déjà fragilisés.
La tenue de ce sommet à Alger, cela a bien entendu un enjeu important pour l'Algérie, pour la diplomatie algérienne.
Oui, depuis l'arrivée du président Mejid Tebboune en décembre 2019, il a insisté sur l'importance de replacer l'Algérie au cœur du travail diplomatique arabe et africain, surtout ces deux zones, parce que l'Algérie considère que le monde arabe et l'Afrique et aussi la Méditerranée sont des zones stratégiques, de profondeur stratégique pour elle. Donc il y a de grosses opérations menées par la diplomatie algérienne, notamment en faveur d'une tentative de réconciliation ou de trouver une solution en Libye. Il y a eu beaucoup d'initiatives pour trouver une solution donc à la crise de ce pays voisin. L'Algérie et la Libye partagent près de 1000 kilomètres de frontières terrestres. Des opérations aussi, des actions menées en faveur de l'Éthiopie, de l'Égypte et du Soudan pour essayer de trouver un terrain d'entente, de discussion sur la crise du barrage d'Al-Nahda et le partage des eaux du Nil. Et en plus de ça, il y a aussi un travail en faveur du Mali pour l'application de l'accord de paix, parce que vous savez que l'accord de paix en Mali a été signé en Algérie en 2015, et c'est l'Algérie chargée par la communauté internationale de le suivre réellement sur le terrain. Et il y a aussi un travail envers l'Afrique, parce que souvent on reproche à l'Algérie, à la diplomatie algérienne, de tourner son dos, de ne pas travailler suffisamment avec l'Afrique. Donc le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a fait des déplacements dans plusieurs pays africains, ainsi que le président Tebboune, qui envisage aussi une tournée dans certains pays africains. En plus, évidemment, du travail fait avec les factions palestiniennes pour essayer de trouver une réconciliation, l'Algérie a réussi enfin à réunir toutes les factions palestiniennes autour d'un accord signé à Alger.
C'est le premier sommet de la Ligue arabe en 3 ans, et en 3 ans, d'immenses bouleversements ont eu lieu dans le monde, et notamment dans le monde arabe.
Oui, et beaucoup d'eau a coulé sur le pont, effectivement, et cela a été aussi souligné par Ahmed Aboulrit et aussi par le président Ben Saïd. La crise de la pandémie de Covid-19 est passée par là, et là aussi on parle du risque sanitaire, notamment la nécessité de travailler entre les États. On a vu que la coopération a fonctionné parfois, notamment entre l'Algérie et la Tunisie, lors de la crise de la pandémie de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. L'Algérie a apporté son aide à la Tunisie. Et donc, cela effectivement est évoqué. Et bien sûr, il y a aussi d'autres crises qui se sont aggravées depuis la crise en Syrie. On ne trouve pas le bout du tunnel. Et là, tout le monde a parlé de la nécessité de trouver une solution arabe à la crise en Syrie, éloignée des ingérences étrangères, les interférences d'autres pays de la région, notamment la Turquie et l'Iran ont été évoquées aussi On a constaté que depuis 2019, le monde arabe ne travaille pas suffisamment avec son environnement, avec son voisinage, comme l'Afrique. Il y a une grande rencontre prévue en Arabie Saoudite en 2023, monde arabe-Afrique, et aussi une autre rencontre, c'est monde arabe-Asie, et surtout Chine, donc le rapport avec la Chine. Et tout ça, il y a eu beaucoup de changements en 3 ans, beaucoup de bouleversements, que le monde arabe n'a pas suivi totalement selon les observateurs, d'où la nécessité de revoir beaucoup de choses. L'Amtala Mamra, ministre des Affaires étrangères algérien, a parlé de ça, de la nécessité de tout repenser, de tout revoir, de s'adapter à ce qui se passe dans le monde et parler avec le monde avec une nouvelle approche, une nouvelle vision qui n'est pas celle d'un monde arabe attentiste ou un monde arabe qui est dans la position passive, puisque le monde arabe exporte et produit de l'énergie, a de grosses potentialités humaines et aussi agricoles. Donc cela fait que dans la crise actuelle dans le monde arabe pourrait jouer, si l'Asie en bloc, jouer un grand rôle dans la stabilisation du monde.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures, Algérie. L'Organisation mondiale de la santé lance un cri d'alarme face à une épidémie de choléra qui se propage rapidement à travers le Liban, alors que la Syrie voisine lutte aussi contre une recrudescence de la maladie. Le Liban a enregistré ce mardi soir 10 nouveaux cas de choléra. Le nombre total de nouveaux cas confirmés et suspects s'élève à 186. Le pays a enregistré jusqu'à présent 400 cas confirmés depuis la réapparition de la maladie dans le pays le 5 octobre dernier. Les résultats des élections législatives en Israël témoigne d'une montée de l'extrémisme et du racisme dans la société israélienne. Réaction du Premier ministre palestinien suite à ce scrutin. L'ex-Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou semble se rapprocher de la victoire grâce à l'extrême droite. Jugé pour corruption, Benjamin Netanyahou avait perdu le pouvoir en juin 2021 au profit d'une coalition hétéroclite mise sur pied par Yair Lapid. Ce scrutin s'est déroulé sur fond d'un regain de violence en Cisjordanie occupée. Ce mercredi matin, l'armée israélienne a tué un Palestinien qui avait grièvement blessé un soldat dans une attaque à la voiture bélier. Tunis, paralysé par une grève des transports, tramway, autobus, train, tous les transports publics ont été impactés ce mercredi. Mouvement des employés du secteur pour protester contre des retards de paiement des salaires. Le secrétaire général de la branche transport de la centrale syndicale UGTT affirme que plus de 8300 employés n'ont pas encore reçu leur salaire d'octobre, plus de 10 jours après la date habituelle de versement. La Corée du Nord a lancé ce mercredi au moins 17 missiles balistiques. L'un d'eux est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes. Le président sud-coréen dénonce une invasion territoriale de fait. L'armée nord-coréenne a aussi procédé à plus d'une centaine de tirs d'artillerie dans la zone tampon maritime entre les deux pays. Le gouvernement français veut faciliter l'insertion des travailleurs étrangers avec la création d'un titre de séjour spécifiquement dédié aux travailleurs sans papier titulaires d'un emploi, cela dans les secteurs en manque de main-d'œuvre, comme ceux du bâtiment. Ce sera l'une des mesures inscrites dans le futur projet de loi immigration attendu au début de l'année prochaine. Cette future loi doit par ailleurs introduire une série de mesures pour rendre les obligations de quitter le territoire français plus efficaces. Le gouvernement veut notamment inscrire les immigrés menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées. Les victimes de propos racistes sur les réseaux sociaux doivent déposer plainte. Le message du député Renaissance de la Moselle, Belkir Belhadad, lui-même a porté plainte après avoir été victime de propos racistes sur Facebook. L'élu espère une réponse judiciaire forte. Le député Belkir Belhadad.
Oui, j'ai déposé plainte fin juillet suite à des insultes proférées sur les réseaux sociaux entre le premier et le deuxième tour des élections législatives et puis ensuite après ma victoire sur la première circonscription de Moselle par un citoyen de ma circonscription. Je ne vais pas citer de ses propos, mais lorsque les journalistes étaient présents à la conférence de presse, ces derniers ont été quand même extrêmement surpris par la violence des propos. La presque non-gêne d'une partie de nos concitoyens à proférer ce type d'insultes sans forcément que Facebook les enlève des réseaux sociaux et des posts. Donc, ils étaient toujours consultables, même si j'ai déposé un signalement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai déposé plainte. Je crois que c'est important de le faire. Il y a une certaine forme de lassitude, d'exaspération, une volonté de faire en sorte que les plateformes sur les réseaux sociaux jouent le rôle Et puis, que ce soit un élu de la République et de la nation qui soit insulté de cette manière, je crois que c'est important, à travers cette plainte-là et ce dépôt de plainte, de montrer l'exemple, parce que beaucoup de nos concitoyens qui se font insulter de la sorte ne vont pas forcément déposer plainte. Et c'est à partir du moment où on dépose plainte véritablement que le processus peut s'enclencher et qu'on peut obtenir justice. Et puis c'est une manière aussi de lutter contre ces discriminations et ces propos racistes. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs je n'ai pas souhaité, je fais partie de l'équipe de France des parlementaires, et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas souhaité participer à la rencontre à laquelle participaient également des élus du Rassemblement national. Même si c'était un match caritatif, je crois qu'il y a des limites. Moi, je ne peux pas dénouer mon engagement personnel, mon engagement et mon histoire personnelle, mon engagement pour le sport et les valeurs du sport, et mon combat contre l'extrême droite et les prêcheurs de haine. Voilà. Donc, j'espère que ça servira d'exemple et que la justice sera au rendez-vous.
Et on l'entend, vous encouragez l'ensemble des personnes victimes d'injures raciales, notamment sur les réseaux sociaux, à déposer plainte. Une plainte peut aboutir, hein, bien entendu, même si l'auteur de l'acte raciste est anonyme.
Oui, tout à fait. Il faut déposer plainte. C'est vraiment le message que je veux faire passer.
Vous n'avez pas le sentiment d'avoir été soutenu par l'ensemble de la représentation nationale? C'est aussi ce que vous nous dites aujourd'hui?
Oui, j'ai un soutien très très large hein, de mes collègues et je pense qu'il faut le faire savoir. On le fait pas savoir suffisamment que ces violences-là peuvent extrêmement nuire. Moi, j'étais profondément blessé, voilà, et j'ai eu le soutien de la plupart de mes collègues et non pas uniquement de mes collègues de la majorité présidentielle, mais de manière beaucoup plus large. Et c'est quelque part un peu rassurant, et il ne vous a pas échappé que je n'ai pas eu le soutien des députés du Rassemblement national.
Belkir Belhadad, député Renaissance de la Moselle. Enfin, la CGT annonce la fin de la grève à la raffinerie Total Energy de Gonfreville, l'une des dernières où le mouvement social se poursuivait. Cette raffinerie en Normandie alimente notamment l'Île-de-France en carburant via des gazoducs. Fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.